Le 29 septembre 2008, trois jours après le débat à l'université du Mississippi, le projet de loi TARP de Bush a été retoqué à la Chambre des représentants, échouant de 13 voix à obtenir la majorité. Deux tiers des démocrates avaient voté pour, deux tiers des républicains avaient voté contre. Le Dow Jones a aussitôt fait une chute terrifiante, dégringolant de 778 points. Et après un tollé dans la presse et sans doute une avalanche de coups de fil d'électeurs qui voyaient leur compte épargne retraite partir en fumée, un nombre suffisant d'élus des deux partis ont retourné leur veste pour qu'une version amendée du plan de sauvetage soit votée quelques jours plus tard. Immensément soulagé, j'ai appelé Hank Paulson afin de le féliciter pour tout le travail qu'il avait accompli. Mais si la loi TARP allait se révéler cruciale pour sauver le système financier, toutes ces péripéties n'ont rien fait pour dissiper l'impression croissante dans l'opinion publique que le parti républicain, et par extension son candidat désigné à l'élection présidentielle, se révélait incapable de gérer la crise de manière responsable. Entre-temps, les décisions relatives à notre stratégie de campagne défendue par Plouffe depuis plusieurs mois portaient leurs fruits. Notre armée d'organisateurs et de bénévoles s'était déployée dans tout le pays, poussant plusieurs centaines de milliers de nouveaux électeurs à s'inscrire sur les listes et lançant des opérations sans précédent dans les États permettant le vote anticipé. Les dons en ligne continuaient d'affluer, ce qui nous donnait les moyens de jouer à notre guise sur tous les terrains médiatiques. Quand l'équipe McCain, un mois avant l'élection, a annoncé qu'elle interrompait sa campagne dans le Michigan, un état historiquement décisif pour l'issue de la bataille, afin de mettre à profit ses ressources ailleurs, Plouffe en a presque été offensé. « Sans le Michigan, ils ne peuvent pas gagner », a-t-il dit en secouant la tête. « Autant agiter un drapeau blanc ». Au lieu de concentrer son énergie sur le Michigan, la campagne McCain s'est focalisée sur un homme qui était devenu un improbable personnage culte, Joe Wurzelbecker. Je l'avais rencontré quelques semaines plus tôt à Toledo, dans l'Ohio, à l'occasion d'une petite séance de porte-à-porte, comme au bon vieux temps. C'était la façon de faire campagne que je préférais. Surprendre les gens alors qu'ils étaient en train de ratisser les feuilles mortes dans leur jardin ou de bichonner leur voiture dans l'allée de leur maison et voir les gamins débouler à toute berzingue sur leur vélo pour assister au spectacle. Ce jour-là, posté au coin d'une rue, j'étais en train de signer des autographes et de discuter avec un petit groupe de gens lorsqu'un homme s'est approché. Crâne rasé, pas loin de la quarantaine à vue de nez, il s'est présenté, Joe, et a commencé à me poser des questions sur mon programme concernant les impôts. Il était plombier, m'a-t-il dit, et il était inquiet à l'idée que des gauchistes dans mon genre empêchent des patrons de petites entreprises comme lui de réussir. Sous le regard des caméras, je lui ai expliqué que mon programme ne prévoyait une hausse des impôts que pour les 2% des Américains les plus riches, et que, en investissant ses revenus dans des secteurs comme l'éducation et les infrastructures, l'économie en général et sa petite entreprise en particulier auraient plus de chances de prospérer. Je pensais que cette redistribution fiscale, quand on répartit les richesses, lui ai-je dit plus précisément, avait toujours joué un rôle essentiel pour permettre une plus grande égalité des chances. Joe était cordial mais peu convaincu, et nous sommes tombés d'accord pour dire que nous n'étions pas d'accord. Puis nous nous sommes serrés la main et je suis parti. Dans le van qui nous ramenait à l'hôtel, Gibbs, qui, comme tout directeur de communication qui se respecte, avait une oreille infaillible pour détecter les déclarations en apparence anodines susceptibles de déclencher un tohu-bohu politique, m'a dit que ma petite phrase sur la redistribution des richesses posait problème. « De quoi tu parles ?»« C'est le genre de formule qui passe mal dans les sondages. Les gens associent ça au communisme et tout, enfin tu vois, ce genre de conneries. » J'ai ignoré sa remarque en riant. Tout l'intérêt de revenir sur les réductions d'impôts de Bush, lui ai-je dit, était précisément de redistribuer les revenus de gens comme moi à des gens comme Joe. Gibbs m'a regardé comme un parent dont le gamin n'arrête pas de répéter les mêmes erreurs. Et ça n'a pas raté. Dès que les images de mon échange avec Wurzelbecker, instantanément rebaptisé Joe le plombier, ont commencé à circuler, McCain s'est mis à s'acharner sur ce sujet pendant nos débats. Son équipe y est allée à fond, laissant entendre que ce bon citoyen de l'Ohio avait percé à jour mon secret, démasqué le dangereux gauchiste qui voulait redistribuer l'argent du contribuable, érigeant Joe en oracle de l'Amérique moyenne. Tout à coup, ce dernier se faisait interviewer sur toutes les chaînes. L'équipe de McCain a tourné des spots télé sur Joe le plombier et l'a invité à monter sur scène en meeting aux côtés du candidat républicain. Joe, pour sa part, semblait tantôt amusé, tantôt décontenancé, et parfois contrarié par sa soudaine célébrité. Mais au bout du compte, la plupart des électeurs n'ont vu en lui qu'une sympathique distraction qui n'avait pas grand rapport avec les enjeux réels de l'élection du prochain président des États-Unis. La plupart, mais pas tous. Pour ceux dont la source d'information principale était l'éditorialiste de Fox News Sean Hannity ou Rush Limbaugh, Joe le plombier s'intégrait merveilleusement à un tableau plus large dans lequel figurait le révérend Wright, ma prétendue allégeance au sociologue et penseur de la gauche radicale Saul Alinsky, ma relation d'amitié avec mon voisin Bill Ayers, qui avait été l'un des leaders du groupe militant des Weather Underground, et ma trouble ascendance musulmane. Pour ces électeurs-là, je n'étais plus un simple démocrate de l'aile gauche du parti qui voulait étendre le filet de sécurité sociale et mettre un terme à la guerre en Irak. J'étais un personnage plus insidieux, quelqu'un qu'il fallait craindre, quelqu'un qu'il fallait stopper. Et pour faire passer ce message urgent et patriotique au peuple américain, ils se tournaient de plus en plus vers leur plus intrépide championne, Sarah Palin. Depuis le mois d'août, Palin avait enchaîné les bourdes lors d'interviews dans les plus grands médias, et elle était devenue l'un des sujets de moquerie préférés de Saturday Night Live et d'autres émissions humoristiques. Mais sa force était ailleurs. Elle avait passé la première semaine d'octobre à rassembler des foules toujours plus grandes qu'elle intoxiquait joyeusement en répandant les effluves de sa bile nativiste. Du haut de la tribune, elle m'accusait de fricoter avec des terroristes prêts à prendre pour cible leur propre pays. Elle affirmait que je n'étais pas quelqu'un qui voit l'Amérique comme vous et moi voyons l'Amérique. Les gens venaient à ces meetings avec des t-shirts sur lesquels on pouvait lire des slogans comme « les pitbulls de Palin » et « non aux communistes ». D'après les médias, on entendait ça et là jaillir de la foule un « terroriste, tuez-le » ou encore « qu'il crève ». C'était comme si, à travers la voix de Palin, les esprits maléfiques qui rôdaient depuis longtemps aux marges du Parti républicain contemporain, la xénophobie, l'anti-intellectualisme, les théories conspirationnistes paranoïaques et le racisme, avaient enfin trouvé le moyen de se glisser au centre de l'arène. John McCain, il faut rendre hommage à son caractère et à sa foncière droiture à cet égard, repoussait poliment ceux de ses partisans qui s'approchaient de lui en vomissant des flots d'invectives inspirées par la rhétorique de Palin. Un jour, lors d'un débat public dans le Minnesota, quand un homme s'est avancé vers le micro et a déclaré que l'idée de me voir devenir président le terrifiait, McCain a refusé de cautionner ce discours. « Permettez-moi de vous dire que c'est une personne respectable et une personne que vous ne devriez pas avoir peur de voir devenir président des États-Unis », a-t-il dit, déclenchant une salve de huées dans le public. Répondant à une autre question, il a déclaré encore « Nous voulons nous battre et je compte bien me battre, mais nous serons respectueux. J'admire le sénateur Obama et ce qu'il a accompli. Je lui témoignerai toujours mon respect. Je veux que chacun d'entre vous se montre respectueux et faisons en sorte de toujours le rester » parce que c'est comme ça que devraient se conduire les affaires politiques en Amérique. Je me demande parfois si McCain aurait fait le choix de Palin comme colistière, s'il avait su ce qu'allait se passer, s'il avait su que son ascension spectaculaire et son ascension au statut de candidate légitime allaient fournir un tremplin à de futures personnalités politiques et faire dériver le centre de gravité de son parti et de la politique américaine en général dans une direction qu'il abhorrait. Je ne lui ai jamais posé la question directement, bien entendu. Au cours des 10 années suivantes, nous finirions par entretenir des rapports certes marqués par les rancœurs, mais empreints d'un respect mutuel sincère, même si l'élection de 2008, comme on peut le concevoir, est toujours restée un sujet délicat entre nous. Je veux croire que si la chance lui avait été donnée de tout recommencer, il aurait fait un autre choix. J'ai la conviction que pour lui, le pays passait avant tout. Le cri de ralliement qu'avait lancé Edith Childs avec son grand chapeau dans cette petite salle de Greenwood en Caroline du Sud plus d'un an auparavant, jaillissait spontanément désormais et déferlait comme une immense vague dans des foules de 40 000, 50 000 personnes, dans les stades de foot et les parcs où les gens se rassemblaient en ce mois d'octobre inhabituellement chaud pour la saison. Au taquet, prêt à foncer, au taquet, prêt à foncer. Nous avions bâti quelque chose ensemble. L'énergie était palpable, comme une force physique. Quelques semaines seulement nous séparaient de l'élection et les antennes locales de notre campagne partout dans le pays se démenaient pour faire de la place aux nouveaux bénévoles qui se pressaient en masse. On avait soudain l'impression que l'affiche graphique créée par Shepard Ferret, intitulée « Hope, espoir », avec un portrait stylisé de mon visage en rouge, blanc et bleu, le regard projeté vers le lointain, était partout. On avait soudain l'impression que la campagne avait dépassé les frontières de la politique pour entrer dans le royaume de la culture populaire. « T'es au top de la hype !» se moquait Valérie. Mais cela m'inquiétait. L'enthousiasme soulevé par notre campagne, le spectacle de tous ces jeunes soudain conscients du pouvoir qu'ils avaient de changer les choses, ce rapprochement des citoyens américains au-delà des différences ethniques et socio-économiques, C'était la concrétisation du projet politique dont j'avais autrefois rêvé, et j'en étais fier. Mais me voir élevé avec toujours plus d'insistance au rang de symbole était contraire à mon instinct de rassembleur, à ma conviction que le changement était une affaire collective, pas individuelle, qu'il s'agissait de nous, pas de moi. C'était troublant d'un point de vue personnel également. Il fallait constamment que je veille à ne pas être dupe de cet emballement et que je me rappelle qu'il y avait loin de cette image idéalisée à l'homme pétri de défauts et souvent de doutes que j'étais en réalité. Je devais aussi faire face à la probabilité, si j'étais élu président, qu'il me soit impossible d'être à la hauteur des attentes que j'avais suscitées. Depuis que j'avais remporté la nomination démocrate, je lisais la presse d'un œil différent, d'une façon qui me déstabilisait. Chaque manchette, chaque article, chaque révélation me confrontait à un nouveau problème à résoudre. Et les problèmes s'amoncelaient à toute vitesse. En dépit du vote de la loi TARP, le système financier restait paralysé. Le marché de l'immobilier continuait de plonger. Les licenciements économiques se multipliaient à un rythme de plus en plus rapide et l'on commençait à craindre que les Big Three de l'industrie automobile ne soient bientôt eux aussi en péril. Affronter ces problèmes n'était pas une responsabilité qui m'effrayait. Au contraire, j'avais hâte de m'en occuper. Mais tout ce que j'avais appris jusqu'ici me portait à croire que la situation allait encore empirer. Résoudre la crise économique, sans parler des deux guerres dans lesquelles nous étions impliqués, de mon projet d'assurance maladie pour tous et de la survie de la planète face à la catastrophe du changement climatique, allait être une tâche longue et ardue. Une tâche qui nécessitait la coopération du Congrès, des alliés déterminés et des citoyens informés et mobilisés, capables de supporter la pression exercée sur le système. Pas un héros solitaire. Alors que se passerait-il quand le changement n'interviendrait pas assez vite? Comment ces foules qui m'acclamaient réagiraient-elles face aux inévitables revers et autres compromis? C'était devenu une blague récurrente au sein de l'équipe. Est-ce qu'on est vraiment sûr d'avoir envie de gagner? Il n'est pas encore trop tard pour jeter l'éponge. Marty formulait le même sentiment sous une variante plus ethnique. 232 ans et ils attendent que le pays soit au bord de l'effondrement pour le confier à un black.